Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Monde des Mots et des Mythes. Ici Elicia, je vous souhaite une bonne écoute. Lors de l'émission d'aujourd'hui, je vous parlerai d'une histoire d'amour impossible et obsessionnelle et d'un mythe à la fin tragique. Mais avant, quelques infos cinématographiques et livresques. Du côté du cinéma, deux films sortis le 28 janvier qui peuvent être très intéressants à voir. Le premier, Nuremberg, un film qui revient sur le célèbre procès qui s'est déroulé après la Seconde Guerre mondiale. Pour rappel, ce procès a servi à juger plusieurs officiers nazis pour crimes contre l'humanité. Un film donc historique fort qui interroge la justice, la mémoire et la responsabilité.
Monsieur le juge Jackson, ils ont capturé Hermann Göring, vivant.
Qu'est-ce qu'ils vont faire de cet homme ?
Cet hôtel a été transformé en prison militaire secrète. Elle abrite actuellement ce qu'il reste du haut commandement nazi. Hey !
Ne refaites plus jamais ça dans ma prison.
Les gouvernements sont en train de décider si oui ou non ils vont juger ces hommes pour des crimes passibles de la peine de mort. Le commandement central vous considère comme un as de décryptage de cerveau. Vous avez été amené ici pour évaluer et être garant de la santé mentale des prisonniers.
Il est officiellement le plus haut gradé de tous les temps.
Il est extrêmement intelligent,
charmeur
et narcissique.
Je vais me faire disparaître avant que le bourreau m'exécute.
Je vous trouve très sûr de vous.
Vous voulez savoir pourquoi tout ça s'est passé ici? Parce que tout le monde a laissé faire.
Tout ce qui ne serait pas une victoire absolue sera considéré comme une défaite cuisante. Vous devez être inattaquable.
Je vais faire comparaître Hermann Göring à la barre et l'obliger à révéler au monde entier ce qu'il a fait.
Quelle sera votre défense?
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Pourquoi pas la vérité?
J'en connais plus sur cet homme que n'importe qui d'autre sur cette planète.
Vous allez tout droit dans un piège.
Nous ne serons capables de mettre fin à toutes les oppressions que si nous parvenons à obliger tous les hommes à répondre de leurs actes devant la loi.
Pour que ça ne se reproduise plus jamais.
Le second, c'est Guru, un film où Pierre Niney prend le rôle d'un coach en développement personnel dans une société où la réussite individuelle est devenue primordiale. Un récit qui questionne notre rapport à l'ambition, au succès et à nous-mêmes.
Merci les amis !
Ce que tu veux,
c'est ce que tu es.
Mathieu Vasseur, numéro 1 des coachs français.
Je vais vous donner les bons outils pour réussir.
Pourriez-vous nous donner votre définition du coaching, s'il vous plaît?
Je suis fière de toi.
Écoutez, moi, je vois nos vies comme des chemins.
Un petit peu moins de métaphores et un peu plus de réponses directes, monsieur Hassel.
Vous craignez que le coaching soit une porte d'entrée vers des dérives sectaires?
Pourquoi pas demander un diplôme d'État à chaque coach?
Pourquoi pas?
On va tous être au chômage.
Voilà, c'est plus clair, ça.
Matt, le vote de la loi, c'est dans 10 jours.
T'es pas non plus sur le mont des Oliviers à prêcher la fraternité universelle, non?
Je peux pas les laisser tout me prendre.
Tous avec moi! Libérez-vous! Libérez-vous! Arrachez vos peines du tréfonds de vos âmes! Et hurlons! Hurlons ensemble!
Positivité toxique, vous connaissez cette notion? Je te reconnais plus.
Tu crois quoi en fait? Que c'est avec des fleurs que je vais aider les gens?
Are you fucking ready?
Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Ce que tu veux, c'est ce que tu es. Encore une fois, ce que tu veux!
Matt, qu'est-ce que t'as fait?
Ensuite, quelques sorties en ce début février. Quelque chose de plus drôle que les deux films précédents, un Marsupilami avec Philippe Lachaud et Jamel Debbouze qui est sorti le 4 février. Une comédie d'aventure qui promet humour, rythme et dépaysement.
Il y a 3 règles. Règle numéro 1, ne jamais ouvrir le colis.
C'est quoi ça? Le marsupilami.
Règle numéro 2. En prendre le plus. en trois. Être le plus discret possible.
Hola, ¿qué tal?
Et tu y vas avec ta femme et ton fils. Vous passerez plus incognito.
Puis, le 11 février, on a eu un LOL 2.0 avec Sophie Marceau qui reprend son rôle d'Anne. Ici, elle retrouve sa liberté après que ses enfants aient quitté le nid familial. Mais cette liberté ne durera pas lorsque sa fille reviendra vivre avec elle suite à un échec professionnel et sentimental. Et comme une surprise ne vient jamais seule, elle apprend ensuite que son fils et sa femme attendent un enfant. Pour finir sur la côté cinématographique, le film Hurlevente, adaptation du célèbre livre de Emily Brontë. Dans cette nouvelle version, Margot Robbie et Jacob Elordi incarnent les personnages principaux d'une romance intense, sombre et passionnelle, où l'amour se mêle à l'obsession, à la douleur et au destin. Un film qui résonne particulièrement avec le thème de notre émission d'aujourd'hui.
Que ferais-tu, Heathcliff, si tu étais riche ?
Sûrement ce que font tous les hommes riches. Je vivrai dans une grande maison. Je serai cruel avec mes domestiques. Je prendrai une femme.
Une femme ? Quelle femme ?
Heathcliff, tu n'es pas à la hauteur. Pas pour elle.
Monsieur Linton m'a demandé en mariage.
Heathcliff est parti. Vous devez l'accepter.
Cathy.
M'as-tu quitté ?
Pourquoi as-tu trahi ton cœur ?
Mais où est l'obstacle ? Ici. Quelle que soit la nature de nos âmes, la sienne et la mienne ne font qu'une.
Je ne tolérerai pas ce sauvage.
Je vous interdis de l'approcher. Tu as cru que cela m'arrêterait. Embrasse-moi. Et nous serons tous les deux maudits.
Pour terminer, une sortie littéraire très attendue en France, Les Sœurs de la Résistance, d'Anna Stuart, qui est sortie le 4 février. C'est la suite d'une série déjà composée de trois livres. Le premier, La Sage-Femme d'Auschwitz, qui est son best-seller. Il est ensuite suivi de La Sage-Femme de Berlin, puis de L'Orpheline d'Auschwitz. Une série de romans puissants, émouvants et marquants qui explorent l'histoire à travers des destins profondément humains. Il me tarde de les lire. Bien, aujourd'hui j'ai eu très peu d'informations à vous partager, mais c'est pas grave car le plus intéressant arrive. L'histoire d'amour impossible et obsessionnelle. On pourrait croire à ce genre récent de la new romance ou même de la dark romance. Eh bien non, le livre que je vous présente aujourd'hui date de 1922. Je vous présente L'aide d'une inconnue de Stefan Zweig. C'est un livre très court et pourtant extrêmement puissant sur le plan sentimental. Alors, voici le résumé de l'histoire. Donc, dès le début, on rencontre les personnages. Donc, on rencontre l'écrivain qui s'appelle R. On n'a pas plus sur comment il s'appelle ou même sur à quoi il ressemble. Il s'appelle juste R. Bon, dit comme cela, on pourrait croire que c'est un homme parfait car il est décrit comme écrivain brillant et séduisant. Mais derrière son air charmeur et ses belles paroles écrites, Monsieur R est profondément aveugle aux sentiments des autres, et notamment à ceux des femmes. Il est beaucoup trop absorbé par sa vie et par son art pour cela. En rentrant chez lui après un long voyage, il découvre une lettre, sans nom, une lettre d'une inconnue. Attiré par la curiosité qu'elle suscite, il l'ouvre et la lit. Nous découvrons alors, en même temps que lui, la lettre d'une jeune femme qui ne donne pas son nom afin de rester inconnue aux yeux du romancier. Dans cette lettre, elle raconte son amour inconditionnel pour Monsieur R. Elle le voit pour la première fois à l'âge de 13 ans, lorsqu'il emménage dans l'appartement voisin du sien. C'est immédiatement le coup de foudre. Ce jeune homme d'une vingtaine d'années devient son obsession. Elle observe secrètement ses habitudes, mémorise ses gestes et remarque chacune des femmes qui entrent dans son appartement. La jeune fille grandit en construisant toute sa vie autour de cet homme. Mais un jour, elle déménage dans une autre ville avec sa mère. Elle devient triste et monotone, puis finit par revenir dans cette ville, espérant se rapprocher de Monsieur R lors des soirées mondaines. Pourtant, celui-ci ne se souviendra jamais d'elle. Ils passeront néanmoins 3 nuits passionnées ensemble avant que le romancier reparte en voyage, lui laissant de quoi lui écrire. La jeune femme croit enfin à l'espoir d'un amour partagé, mais encore une fois, il l'oublie à son retour. De ces 3 nuits naîtra un enfant, un fils, dont elle taira également le nom. Alors, pour accompagner ce petit résumé, je vais vous lire le tout début du livre. J'espère que je l'ai bien arrêté pour que ça vous attise la curiosité aussi. Monsieur R est un romancier à la mode. Il rentrait de Vienne de bon matin après une excursion de 3 jours dans la montagne. Il achetait un journal à la gare, ses yeux tombèrent sur la date. Et il se rappela aussitôt que c'était celle de son anniversaire. 41 ans, songea-t-il. Cela ne lui fit ni plaisir, ni peine. Il feuilleta sans s'arrêter, puis il prit un taxi et rentra chez lui. Son domestique, après lui avoir appris que pendant son absence il avait eu 2 visites et quelques appels téléphoniques, lui apporta son courrier sur un plateau. Le romancier regarda les lettres avec indolence et déchira quelques enveloppes dont les expéditeurs l'intéressaient. Tout d'abord, il mit de côté une lettre dont l'écriture lui était inconnue, qui lui semblait trop volumineuse. Le thé était servi, il s'accouda commodément dans son fauteuil, parcourut encore une fois le journal et quelques imprimés. Enfin, il alluma un cigare et prit la lettre qu'il avait mis de côté. C'était environ 2 douzaines de pages rédigées à la hâte, d'une écriture agitée de femme, un manuscrit plutôt qu'une lettre. Involontairement, il tâta encore une fois l'enveloppe, pour voir s'il n'y avait pas laissé quelques lettres d'accompagnement. Mais l'enveloppe était vide, comme les feuilles elles-mêmes. Elle ne portait ni adresse d'expéditeur ni signature. C'est étrange, pensa-t-il. Il reprit les feuilles, comme épigraphe, comme titre. Le haut de la première page portait ces mots. « À toi, qui ne m'as jamais connu. » Il s'arrêta, étonné. S'agissait-il de lui ? S'agissait-il d'un être imaginaire ? Sa curiosité s'éveilla et il se mit à lire. Alors encore une fois, comme je disais, c'est un livre très court et un livre qui ne rentre pas dans le registre, encore une fois, habituel que je lis. Mais comme on dit, des fois, il faut savoir sortir de sa zone de confort pour apprécier quelque chose de nouveau. Comme je disais, donc un livre très court. Au total, il y a 100aine de pages. Et sur cette 100aine de pages, il me semble qu'il n'y en a qu'une 50aine qui correspond à l'histoire. Donc le reste, c'est juste des petits... mots de l'auteur et puis à la fin la liste des livres de cet auteur aussi. Donc L'aide d'une inconnue, donc c'est une nouvelle psychologique et tragique dans le genre sentimental et épistolaire, donc épistolaire lié à une lettre du coup. Alors bien sûr, j'ai apprécié le fait que ce livre soit très court car il était très rapide à lire, mais malgré tout c'était assez frustrant et pas très rassasiant. L'histoire était bien captivante, mais arrivée à la fin j'en voulais encore plus. L'effet tragique a bien fonctionné. Tout au long, on ressent de la peine pour cette femme qui vivra un amour impossible et surtout non partagé. Et on ressent de la pitié pour cet homme. On pleure en voyant le destin de cette femme et face à l'ignorance de cet homme, on s'énerve. Je pense qu'en fonction de qui on est et de ce qu'on a vécu, on voit ce récit différemment. Pour ma part, sans pouvoir vraiment vous l'expliquer, j'ai ressenti de la pitié, de la colère et même des fois de la haine envers cet homme si aveugle aux sentiments des autres. Et surtout ceux de la femme qui l'utilise comme un vulgaire objet. Enfin, ce livre est intéressant à lire, autant pour votre culture générale que pour votre propre plaisir. Quand je l'ai lu à la base, c'était pas parce qu'il m'intéressait, c'était parce que j'avais une trop longue pause de lecture qu'il fallait absolument que je m'y remette. Et souvent, les livres qui ne nous intéressent pas peuvent être une vraie surprise. Bien, maintenant nous allons faire une courte pause musicale, mais restons dans le tragique. La musique que je vais vous faire écouter aujourd'hui vient du groupe de K-pop le plus connu, qui a permis à la K-pop de s'étendre dans le monde. Groupe que j'ai le plaisir d'aller voir en concert très prochainement. Chers auditeurs, j'ai le plaisir de vous présenter BTS et leur musique Fake Love. De retour de cette pause, nous restons toujours dans le côté tragique avec un mythe de la tristement célèbre sorcière, fille de Aïtès, petite fille du dieu soleil, nièce de la célèbre Circé. Je vous présente Médée. J'ai évoqué son nom lors de ma dernière émission. En effet, la déesse par laquelle jure Médée n'est d'autre que notre très chère Hécatée. Généralement, quand on parle de Médée, on entend parler malheureusement à travers le mythe d'un célèbre héros, Jason. Mais comme on dit, derrière chaque homme important se cache une femme badass. Bon, J'ai peut-être pris cette phrase à Harley Quinn, mais vous pouvez pas m'en vouloir, j'aime beaucoup cette méchante. Bien, cette femme, c'est donc notre chère Médée. Elle est derrière toute la réussite de Jason. Alors, reprenons du début. Dans la quête de la Toison d'Or, gardée donc par Aïtès, je rappelle, père de Médée, Jason et les Argonautes. Les Argonautes, c'est le petit groupe que Jason a pris avec lui pour partir donc en Colchide, où se trouve donc le royaume de Médée. Médée va donc tomber amoureuse de Jason dès son arrivée, mais pas par hasard bien évidemment, avec l'aide de notre chère Aphrodite, déesse de l'amour. Médée va donc trahir sa lignée pour aider Jason à voler la Toison d'Or, bien évidemment grâce à ses pouvoirs magiques. Elle l'aide donc à surmonter toutes les épreuves, puis elle fuit avec Jason, qui a promis de l'épouser en échange de son aide. Pour que son père ne puisse pas les poursuivre, elle tue son frère, Abistros, dont elle jette les morceaux à la mer, obligeant Aïtès de s'arrêter en chemin pour les récupérer. Celui-ci s'agira du premier meurtre commis par Médée, par amour pour Jason, le premier qui n'est que le début d'une longue série. Alors pourquoi Jason serait parti à la conquête de la Toison d'Or ? Voilà. Pélias, roi d'Iolokos, avait envoyé donc Jason à la conquête de la Toison d'Or car il espérait ainsi se débarrasser de lui. Ainsi, pendant son absence, Pélias en profite pour pousser sa mère au suicide et il tue également son frère. Pour le venger, à son retour, Médée fait tuer Pélias. Mais pas de ses propres mains, non. Elle le fait grâce à ses filles. Pélias a 3 filles, assez naïves par ailleurs. Médée leur fait l'un de ses bons vieux tours de magie. Elle égorge un vieux bouc, elle le met dans une marmite, puis elle en ressort un plus jeune, plus beau, plus brillant. Ainsi, elle promet l'éternité de Pélias aux filles, qui bien évidemment la croit sur parole. C'est comme ça que Pélias meurt. Mais Médée n'avait pas prévu que elle et Jason seraient également expulsés de la ville. Après ceci, les deux amoureux se réfugient en Corinthe, où ils vont vivre heureux pendant quelques années et où ils vont avoir 2 magnifiques enfants. Or, Créuse, fille du roi Créon, n'a pas de descendants. Si bien que Créon promet à Jason sa protection si il accepte de l'épouser. Petite parenthèse, Créon, donc, c'est le roi de Corinthe et Créuse, c'est sa fille, donc la princesse de Corinthe. Jason accepte cette demande en mariage, trahissant ainsi Médée. Cette trahison blesse profondément Médée. Saisie de fureur, elle offre à Créuse, avant son mariage, une tunique magnifique, mais empoisonnée. Créuse brûle aussitôt, elle s'incendie le palais de Créon, Créon meurt également. Mais elle s'arrête pas là, car en effet c'est Jason qui la trahit. Alors elle supprime le dernier lien qui relie Jason à elle. Elle égorge ses 2 enfants qu'elle a de lui. Puis, elle s'enfuit dans les cieux et retrouve toute sa divinité. Alors, cet infanticide est le cœur de la version du mythe représentée par Euripide, donc il définit le personnage de Médée. Les actions précédant l'arrivée de Jason et de Médée en Corinthe ne sont que rapportées, donc on a très peu d'informations sur Médée avant l'arrivée de Jason. C'est pour ça qu'en fait Médée, on n'en entend pas du tout parler autre que ça. C'est une, encore une fois, une sorcière, même un personnage de la mythologie grecque qui est très peu entendu, à part du coup pour cette histoire-là. Et donc, dans un mythe un peu plus moderne, donc Médée est représentée plutôt comme une femme blessée. Donc c'est le cas par exemple de la relecture romanesque de Christa Wolf, donc qui explore plutôt l'état d'esprit de Médée, donc qui montre que celle-ci est innocente des meurtres de son frère et de ses enfants. Donc elle en est accusée que par un jeu politique, par une société grecque corrompue. Donc dans cette version, donc Médée est incarnée comme un bouc émissaire et également est accusée d'être folle. Alors cette façon qu'a pris donc cet auteur de réintégrer Médée comme ça, ça montre également l'innocence des hommes contre la culpabilité de l'intrus. Donc vraiment, faut pas oublier que Médée est vraiment une étrangère dans le mythe, vu qu'elle vient complètement d'ailleurs. Et donc là, encore une fois, c'est pour montrer que c'est l'étranger le problème, pas l'homme. C'était souvent d'ailleurs le cas dans les mythes grecs. C'est souvent les étrangers qui ont été le problème. Ici Médée, mais il y en a plein d'autres cas. Par exemple, Circé qui a également fait quelques petites violences comme celle-ci. Du coup, ce mythe, comme je l'ai dit lors de ma dernière émission, est un mythe qui m'a souvent fascinée. Je n'arrive même pas à en vouloir à Médée, même si je dois avouer que sa réaction est un petit peu trop excessive. Mais finalement, ne serait-ce pas parce qu'elle est monstrueuse qu'elle est plus humaine ? Et puis finalement, avec eux, on a l'habitude. Si on n'oublie pas, Perséphone a transformé Manté en mante, puis l'a écrasée par jalousie. Ou encore Circé qui a ensorcelé les compagnons d'Ulysse juste parce qu'ils ont abordé sur son île. Bref, ils sont toujours dans l'extravagance finalement, nos chers du grec. Et enfin, si comme moi le mythe de Médée vous a fasciné, vous pouvez retrouver d'excellents podcasts sur Radio France. Il y en a plusieurs qui sont tout aussi intéressants les uns que les autres. Et notre émission touche enfin à sa fin. J'espère que vous avez passé un excellent moment en ma présence. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Je vous dis à bientôt pour plus d'histoires extravagantes sur nos dieux grecs. Au revoir.